Une de mes plus belles périodes dans l'été, ben c'est celle du US Open et c'est commencé depuis hier exactement. Il y a eu les qualifs la semaine passée, mais là c'est parti pour le tableau principal avec les premiers matchs qui ont été joués hier. Et fidèle à son habitude, le US Open fait jaser de lui. Pour en parler, Hugues Léger du podcast Sur la ligne. Comment ça va mon ami?
Salut Alex, ça va bien, merci à toi.
Yes, très très bien, merci beaucoup. Ça a brassé Hugues, puis je pense qu'on n'aura pas le choix de traiter ça en premier parmi ce qui s'est passé hier. Benjamin Bonzi qui l'emporte en 5 manches face à Daniil Medvedev. Je pensais jamais pouvoir parler autant de Benjamin Bonzi en ondes, mais là on va devoir le faire et c'est à cause de Daniil Medvedev qui part en feu après qu'un photographe se lève sur balle de match, décide de se déplacer sur le terrain. Bonzi avait déjà servi sa première balle et l'arbitre annonce « Attendez, wait please » et on va reprendre au premier service une fois qu'il se sera immobilisé. Et c'est là que Medvedev pète sa coche, embarque la foule fait crier la foule. Lui se met à hurler sur le terrain. Assez spécial comme moment dans l'éthique du tennis.
Ouais, Medvedev est un artiste dans la façon de trouver des solutions quand ça va mal pour lui. Et il a saisi littéralement la balle au bon à ce moment-là. Écoute, balle de match, tu le dis, 5-4. Bonzi qui domine ce match-là. Effectivement, Medvedev réagit au fait que l'arbitre permet de servir à nouveau une première balle. La foule n'est pas d'accord non plus. Donc là, il s'ensuit une espèce de capharnaüm de 10 minutes où le match pivote. Écoute, à ce moment-là, finalement, Bonzi, qui servait pour le match, perd le set, le troisième set, 7-5, perd le quatrième set, 6-0. Et là, on se retrouve à 1h30 du matin à terminer ce match-là avec finalement une victoire de Benjamin Bonzi, qui, ma foi, méritait ce match-là. Donc, 6-4 au cinquième set. Medvedev est encore éliminé. Alex, en premier tour de Grand Chelem, ça fait 3 fois cette année. Seulement, en Australie, il avait passé un tour. C'est pas une bonne saison pour Medvedev, mais il a tout essayé en essayant justement de perturber son adversaire. Et ma foi, ça a presque marché hier soir.
Mais Hugues, comment on peut l'aimer? Parce que je te ramène dans... C'est ça que j'ai jasé avec Alexis tantôt. Je te ramène dans la série Balle de Berry, dans l'épisode sur Alexander Zverev qui revient de sa blessure à la cheville, qui est pris à... Puis je vais le dire même, qui est pris à affronter Daniil Medvedev à son retour, qui fait tout, mais tout. Puis je l'ai dit tantôt, je vais le redire, pour le faire chier sur le terrain, parce que c'est Zverev qui réussit à gagner justement dans ce match-là à Monte-Carlo.
Oui.
Comment tu peux l'aimer? Il est tellement... Honnêtement, avant, je l'appréciais parce que je connaissais pas ce côté-là de lui. On dirait que ça m'était pas tombé dans l'œil. Mais là, je le trouve profondément désagréable puis je trouve pas que c'est une belle image pour l'ATP.
Ben, c'est un gars extrêmement intelligent. C'est un gars qui trouve des solutions dans plusieurs matchs où il prend du retard. C'est un des rares joueurs du top 10. Là, il vient de baisser. Là, il est plus aussi bien classé maintenant. Mais il perdait souvent le premier set. Il trouvait une façon de revenir dans le match pour gagner en 3 sets. Donc, moi, j'ai toujours apprécié son intelligence tactique pour réussir à remonter des matchs qu'il perdait. Mais c'est vrai qu'il va à la limite du règlement. Dans ce match contre Zverev, dont on parle à Monte-Carlo, il avait carrément enlevé le piquet du filet pour déranger Zverev. L'arbitre ne savait pas trop quoi faire, mais effectivement, ça a dérangé Zverev qui a finalement échappé le match. Je pense qu'il fait beaucoup de choses, mais ce joueur-là, Medvedev, en ce moment, qui irrite les gens, il va souvent gueuler après son coach durant le match, il gueule en direction de son box. C'est un petit peu gênant. Donc, je pense qu'hier soir, il a carrément dépassé les limites. Et encore une fois, il va toujours étirer le règlement au maximum. Et généralement, il s'en sort. Mais là, je pense que ça va commencer à peser sur lui, d'autant qu'il ne performe plus en ce moment. C'est pas une bonne période, là, 2021. Pour Daniil Medvedev.
Je te ramène vers le côté de nos Canadiens. Hugues, il y avait un affrontement entre deux Canadiennes hier, Leila Fernandez et Rebecca Marino, et ça s'est conclu avec une victoire de Fernandez 6-2, 6-1 hier assez aisément. Oui.
Victoire facile, malgré que Marino l'a un petit peu chauffé là, au milieu du premier set, mais Leila est trop rapide, trop forte, là. Donc 6-2, 6-1, tu l'as dit. C'était une joueuse qualifiée, Rebecca Marino. On doit quand même reconnaître là, sa résistance dans le milieu de la trentaine pour réussir à rentrer dans des tableaux de grand chelem encore. Mais disons que c'est une victoire logique de Leila Fernandez, qui est 31e favorite. Mais c'est un match intéressant, mais c'est juste dommage que les deux Canadiennes se retrouvent au premier tour une contre l'autre. Ouais. Et Alex, c'est une année record en termes de nombre de têtes de série canadiennes. On en a 5 cette année. Wow. Je tiens à le souligner là, parce que c'est la première fois qu'on a autant de têtes de série pour le US Open cette année.
Hugues, match à surveiller aujourd'hui, toujours du côté des dames. Victoria Mboko qui l'a dit en entrevue, c'est la première fois qu'elle se retrouve tête de série dans un tournoi. C'est un peu inhabituel. Mais malgré qu'elle est tête de série, elle a un défi de taille devant elle. C'est Barbora Krejčíková qu'elle va affronter ce matin. En fait, dans une vingtaine de minutes sur le Louis Armstrong, selon l'horaire qui est prévu là-bas au US Open. Krejčíková, deux grands chelems. Elle s'est inclinée contre Bianca Andreescu au premier tour à Montréal il y a de cela quelques semaines. À quel genre de match tu t'attends pour Victoria Mboko?
Ben, Mboko, qui est 22e tête de série, faut-il le rappeler, ce qui est totalement incroyable. Oubliez pas qu'elle est rentrée sur un laissé-passer dans le tableau de Montréal. Donc, elle se retrouve 22e favorite au US Open. Sur papier, c'est Victoria qui part quand même favorite. Oui, Krejčíková, c'est une gagnante de multiples grands chelems, mais elle s'est blessée au dos en début de saison. Elle n'a pas beaucoup joué cette année. Je pense que Victoria part quand même comme favorite. Et oui, c'est une gagnante de grands chelems. Ça sera la 5e gagnante de grands chelems qu'elle affronte en quelques semaines. Rappelons qu'elle a battu 4 gagnantes de Grand Chelem à Montréal, Victoria, en route vers le titre. Donc moi, je suis quand même assez confiant pour son match de premier tour, mais ça sera pas quand même un tournoi, je m'attends, comme à Montréal. Tout le monde la regarde, c'est un peu la darling de New York en ce moment. Beaucoup, ils la mettent sur un show court, sur le deuxième plus gros stade du US Open, après le Arthur Ashe. C'est le Louis Armstrong qui est le plus gros. C'est l'ancien central avant les rénovations. Donc elle va avoir une foule imposante, beaucoup de bruit aujourd'hui, mais je m'attends à ce qu'elle passe quand même ce match de premier tour.
Et t'as Gabriel Diallo, du côté des hommes, notre Montréalais aujourd'hui qui va affronter le Bosnien Damir Dumour.
Oui, ça devrait être un match relativement facile pour Diallo, mais bon, attention, les 128 joueurs et joueuses dans un tableau du Grand Chelem, c'est jamais gagné d'avance, mais Gabriel part largement favori. Gabriel, 31e favori, qui connaît une très, très bonne saison. Et si j'ai à parier sur un joueur du côté masculin pour le Canada cette année à Flushing Meadows, c'est Gabriel Diallo qui a la meilleure saison et le meilleur momentum.
Ça, c'est intéressant parce que demain, t'as Shapovalov qui affrontera Fuksovic en matinée et Félix Auger-Aliassime qui va affronter Billy Harris, le Britannique. Moi, je le connais pas. Le connais-tu, Billy Harris?
Oui, c'est un joueur de Coupe Davis. Écoute, normalement, ce premier tour est à portée de Félix, malgré qu'on l'a vu un peu chambranlant dans certains premiers tours. C'est un joueur qui a de la misère, Félix, dans ses entames de tournoi. Mais ce qu'on regarde du côté du tableau de Félix, c'est que dès le deuxième tour, ça va être un Safiulin ou un Gaël Monfils qui est en fin de carrière. Ouais. Match compliqué. Et dès le troisième tour, potentiellement, Alexander Zverev. C'est un tableau compliqué pour Félix.
Écoute, moi je trouve ça intéressant. Tantôt, tu m'as parlé de Gabriel Diallo pour avancer le plus loin. Est-ce que tu penses que c'est lui, parmi nos Canadiens, qui a le tableau le plus favorable?
Oui, je pense qu'il y a une route quand même qui est négociable pour quelques tours. Donc, je suis quand même confiant. Oublions pas qu'il avait fait un troisième tour l'an passé. Il s'était rendu jusqu'à Tommy Paul, un joueur du top 10. C'est là qu'on l'avait découvert un peu, Diallo. Il s'était qualifié. Il avait gagné 5 matchs quand même en 2024. C'est une surface qu'il aime beaucoup. C'est la même surface qu'à Montréal, à Flushing Meadows. Donc, il sera à l'aise là-bas. Il sera soutenu par la foule aussi. Il a eu un premier titre cette année. Des très bonnes performances là, globalement pour Gabriel sur toutes les surfaces. Donc moi, j'ai beaucoup confiance à notre Montréalais qui est de Villeray, tout juste à côté du stade IGA d'ailleurs ici.
Hugues, on finit ça rapidement. Le double mixte a très bien fonctionné cette année. Ça a attiré des foules. C'était partout dans mes réseaux sociaux. Puis je suis certain qu'il y a plusieurs auditeurs aussi qui ont vu tout ça passer. Il y avait des gens présents. Ça avait l'air d'être fait dans le plaisir, mais dans une belle compétition en même temps.
Ouais, 78 000 personnes sur 2 jours de cette nouvelle compétition format vedette. 16 équipes, 8 qualifiées en vertu de leur classement combiné simple et double, mais 8 invités au gré des organisateurs. Ce qui fait qu'on peut créer des équipes vedettes comme Alcaraz avec Raducanu, par exemple. Beaucoup de joueurs du top 10 qui ont joué. Mais finalement, Alex, c'est quand même des spécialistes. Les champions en titre, Vavasori et Errani, les Italiens, qui ont conservé leur titre dans la finale contre Casper Ruud et Swiatek. Donc, ils ont eu le meilleur des deux mondes cette cette année. Ils ont eu tout ce qui était match vedette avec des top 10 du circuit qui ont fait vendre des billets durant la fan week. Mais c'est quand même les meilleurs joueurs de double qui ont gagné ce tournoi-là. Et ils ont dédié leur victoire aux spécialistes de double qui n'ont pas pu jouer et qui ont perdu des revenus, évidemment. Donc, c'était une compétition sur laquelle il y avait beaucoup d'intérêt, mais force est d'admettre que le format du double mix vedette, le nouveau genre du US Open, a très bien fonctionné.
Hugues, je pensais pas y aller, là, mais la semaine prochaine, je vais avoir terminé ici. Je pense aller faire un tour. C'est une bonne décision?
Ça vaut la peine. C'est notre grand chelem. Hein. C'est la fin du circuit nord-américain qui commence à Montréal après Wimbledon.
Ouais.
C'est un événement exceptionnel. Essaie d'y aller en night session. Les sessions de soirée sont juste électrisantes. Ouais. On ne sait jamais ce qui va se passer. On a eu un bon exemple avec Medvedev hier soir. Je t'encourage à y aller. Tu peux trouver, c'est un très grand stade, le Arthur Ashe. C'est 21 700 places. Tu peux trouver des billets au niveau de la revente qui vont être quand même abordables. Là. Mais oui, écoute, vas-y, c'est une belle expérience, le US Open.
Ça me trotte dans la tête. Là. Ça me tente de plus en plus, fait que je pense que je vais commencer à regarder le projet. Hugues Léger du podcast Sur la ligne, merci beaucoup, puis je relance l'invitation, mais on va se reparler plus tard cette semaine, c'est sûr.
Avec plaisir, Alex.
Ça marche, salut Hugues, bye bye, bonne journée.